On peut se tourner dans Luc 13. On est dans, à partir du verset 18. On va lire ensemble. Il dit encore, « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerai-je ? Il est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi comparerai-je le royaume de Dieu ? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Jésus traversait les villes et les villages et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. » Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que resté dehors, vous commencerez à frapper à la porte et à dire, « Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous commencerez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il vous répondra en disant, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. À ce moment-là, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur dit, « Allez dire à ce renard, voici, je chasse les démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, ce sera pour moi l'achèvement. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Jésus, aide-nous à comprendre ce texte ce matin. Ouvre nos cœurs pour recevoir ce que tu as à nous dire, Seigneur. Aide-nous à entrer par la porte étroite, Seigneur, à ne pas être de ceux qui sont... qui se retrouvent dehors, Seigneur. Aide-nous à être sensibles à tes paroles et à toi. Que tu sois glorifié ce matin. En ton nom, nous prions. Amen. Alors, on continue. Encore une fois, est-ce que si vous vous souvenez de ce qui s'était passé la semaine précédente, il avait reproché aux pharisiens leur manque d'amour pour les gens. Il y avait une femme qui était malade, Jésus l'a guérie et eux se plaignent et disent « Non, non, pas de guérison le dimanche, c'est sabbat. » Et il les avait repris et il continue dans cette situation. Les foules se réjouissent de ce qu'il faisait. Et là, au verset 18, il dit « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable ?» Et à quoi le comparerai-je? Et ensuite, il donne deux petites paraboles, deux petites images que on connaît si on vient ou si on lit la Bible. On connaît ces deux images. On les a peut-être déjà entendues. Il y a d'autres passages où il parle avec ces mêmes idées. Et il commence avec alors ici, c'est la graine de moutarde. Ou le grain de moutarde, pardon. Est-ce que vous en avez déjà vu? Vous savez ce que c'est? C'est petit, c'est tout petit. Est-ce que vous avez déjà vu la plante? Oui? Alors, c'est quoi? C'est bien? C'est un petit arbuste. Dans ce passage, un petit peu, c'est évoqué. Et il y a un passage dans Matthieu 13 qui en parle aussi. Et il parle de cet arbre comme étant quelque chose de très grand dans lequel les oiseaux peuvent s'abriter. Et en fait, si vous connaissez cette plante, c'est pas quelque chose de normal. Et on se dit, comment comprendre ça par rapport au royaume de Dieu? Ici, il dit, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? C'est un exemple, il parle, il veut illustrer. Et dans la Bible, quand on voit les paraboles et quand on voit les choses qui sont utilisées un petit peu comme des symboles, il y a une des règles, c'est de regarder le reste de la Bible et de voir ce que les choses représentent dans les autres passages. Et quand on regarde dans le reste de la Bible, souvent les arbres, les grands arbres, sont utilisés pour décrire des systèmes humains, des systèmes de gouvernement humains. Et le plus souvent plutôt des systèmes mauvais, des systèmes un petit peu corrompus. Il y a des exemples, notamment dans Daniel 4, la vision qu'a Nebuchadnezzar du royaume. Et ensuite, on a cette petite chose avec les oiseaux du ciel qui habitent dans ses branches. Et les oiseaux aussi sont le plus souvent quelque chose de mauvais. Et c'est un petit peu... En regardant ces deux choses, ça va un petit peu à l'encontre de ce que les gens disent en général sur ces passages. Les gens, si on écoute, si vous cherchez, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de gens qui enseignent et qui disent que ces deux images, c'est l'image que l'Église, le royaume de Dieu, va grandir jusqu'à toucher toute la terre et changer toute la terre et affecter tous les gens vont devenir chrétiens sur la planète et ça va être un peu ça va tout affecter. Alors humblement, c'est peut-être ça. Moi, quand je vois ces images et les petites caractéristiques et les choses qu'on y voit, et puis quand on se place par rapport à la cohérence des images et des symboles, moi je pense que c'est plus juste de regarder ça avec quelque chose, un petit peut-être un grain de sel, et de se dire qu'en fait Jésus, il dit peut-être d'une certaine manière que le royaume de Dieu va grandir, mais qu'il y aura de la corruption au sein de ce royaume, au sein de l'Église dans le monde. Et quand on regarde par rapport à ce qu'il disait avant avec les pharisiens et qu'il les reprenait, qu'il disait « vous êtes corrompus, vous n'avez pas compris », je me dis peut-être que d'une certaine manière, les gens se mettent à se réjouir « ouais, c'est génial, tout va changer ». Et c'est moi je le vois, et mon interprétation ce matin en tout cas, c'est que il dit « le royaume de Dieu, il y aura des choses, il y aura de la corruption aussi, il y aura des choses... qui ne sont pas bonnes aussi. Je pense que quand on discute avec les gens, quand on regarde l'histoire de l'Église, c'est pas très difficile à comprendre que l'Église, qui doit être le royaume de Dieu sur terre, et ben nous qui faisons partie de l'Église aujourd'hui, de l'Église avec un grand E, on peut dire que dans l'Église il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes et qui ne sont pas dignes de ce que Dieu veut. Des choses qui sont mauvaises, qui vont à l'encontre de ce que Dieu veut. Et donc c'est comme ça que je le comprends. Il continue avec le levain, et pour un petit peu confirmer mon idée, le levain c'est toujours utilisé comme quelque chose de mauvais, quelque chose qui corrompt. On sait dans l'Ancien Testament qu'il y avait les lois, qu'il fallait pas qu'il mangeait du pain sans levain, que c'était symbolique du péché, qu'il y avait... C'est quelque chose qui, le plus souvent, l'image, c'est que ça corrompt toute la pâte. Là aussi, les gens se disent qu'ils voient que le royaume de Dieu affecte toute la terre et finit par s'infiltrer partout. Et je trouve pas que ce soit une explication vraiment appropriée. Encore une fois, ici, j'ai mentionné qu'il y avait l'arbuste qui n'était pas vraiment quelque chose de naturel, l'arbre qui vient de la graine de moutarde normalement est pas grande, et là c'était un truc très grand, c'est un peu, il y a quelque chose de bizarre, de peut-être pas naturel. Et ici il y a encore quelque chose avec les dimensions. Pour nous, on ne comprend pas forcément, mais les Juifs à l'époque savaient exactement ce que représentaient ces mesures. Et là, c'était la pâte pour faire du pain pour une centaine de personnes. C'est beaucoup de pâte, là. C'est, Et ça les aurait peut-être choqués à l'époque de se dire « Mais pourquoi faire tant de pain? Une femme toute seule, elle ne peut pas faire ça. Voilà, je, par rapport à ce que je vous expliquais, les deux interprétations, je crois qu'il y a aussi peut-être pour moi une mise en garde à votre propos. Il y a des mouvements d'église qui pensent que l'église doit militer pour trouver de l'influence dans la politique, dans l'éducation, dans l'art, et qu'en faisant ça, l'église va finir par conquérir le monde en quelque sorte, et que c'est l'église par son activité qui va provoquer le retour de Jésus. C'est pas ma compréhension et c'est pas notre compréhension ici de comment Jésus va travailler dans le monde. Et j'ai du mal vraiment à concilier cette idée-là avec les enseignements de Paul, avec les enseignements de Jésus. On ne voit pas quelque chose où c'est l'Église qui grandit glorieusement et qui finit par établir la paix sur la terre. Et c'est quelque chose de cyclique parce qu'on, dans le monde, il y a des moments où on se dit « ça y est, c'est bon, ça va ». Et apparemment, dans les commentaires que je lisais pour préparer pour ce matin, il disait avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des mouvements d'église qui disaient ouais, ça y est quoi, on est en train d'étendre le royaume de Dieu, il y a des églises, tout le nombre de nations chrétiennes augmente exponentiellement et ils s'attendaient à ce qu'en l'an 2000, toute la terre soit chrétienne et que ce soit bon établi et que voilà, on est fini. Et il y a des théologiens qui étaient plutôt libéraux allemands qui après la Deuxième Guerre mondiale, j'ai lu des citations où ils disent on s'est trompé. Visiblement, il y a un problème. Et quand on voit le monde d'aujourd'hui, si on a cette vision-là du monde, je pense que c'est très frustrant aussi. Et il y a quelque chose où on dit, mais Dieu, je comprends pas. Je pensais qu'on allait, y arriver là. Et puis, regardez le monde autour de vous. On n'a pas l'impression qu'on y arrive. On a l'impression que même que les territoires chrétiens, il y a beaucoup de pays qui se font, envahir par l'islam, par exemple, ou par d'autres, même en Europe, finalement, qui rejettent la foi chrétienne. Et donc, on a l'impression que quand même, dans le monde, c'est pas la foi chrétienne qui grandit, qui va tout envahir, faire lever toute la patte glorieusement, et qu'on soit tranquille et qu'on vive dans la paix. Donc, tout ça, pour moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles je crois que ces images sont plutôt cette idée que le royaume de Dieu sur terre, l'Église, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, que Dieu peut utiliser cette chose malgré cette corruption et malgré ces choses peut-être pas bonnes dedans, mais que Jésus arrive quand même à utiliser, que c'est quand même ça, il a un reste, il y a une, c'est sa mariée quand même malgré le, enfin il y a ce mélange entre le royaume de Dieu véritable et puis le système que les hommes construisent. Continuons au verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Dans les évangiles, j'en ai parlé, mais cette idée de se remettre toujours en tête que Jésus, ici, se déplace avec un objectif qui est Jérusalem et sa mort et ça me donne toujours une vision de Jésus très différente quand on le voit interagir avec les gens. Si on vous disait vous allez être condamné à mort et on vous, j'en sais rien, il y a les policiers qui disent bon maintenant il faut que tu marches jusqu'à la mairie et on va te pendre sur la place publique, et puis de voir comment Jésus prend le temps de parler aux gens, d'interagir, d'aimer les gens, de prendre, de donner aux gens. Je trouve ça toujours plus fou et plus incroyable. Et je trouve que ça donne encore plus de relief et de couleur à tout ce que fait Jésus dans les évangiles. Donc il est en chemin. Il arrive finalement dans Luc 19, donc on n'y est pas encore. Et pendant qu'il est en route, quelqu'un lui demande, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? On se dit, pourquoi ce gars-là, il pose cette question? Pourquoi il vient importuner Jésus? ma première réaction quand je vois ça, c'est je me dis, il y a un peu, on a l'impression qu'il y a un peu un débat. Il vient demander l'avis de Jésus, quoi. Il devait avoir un débat où il discutait. Et la personne vient voir Jésus. Est-ce que c'est vrai? Il y aura que peu de gens? Ou c'est quoi ton point de vue? Certains commentaires vont chercher dans les écrits juifs, les commentaires des rabbins pour dire que oui, il y avait effectivement un débat à propos de ça, que seulement certains juifs seraient sauvés, ou alors que ce serait que les juifs, et que donc ça c'était quand même ce que pensaient tous les juifs, que les juifs seraient sauvés et que le reste, les païens, ne seraient pas sauvés. Donc c'est peut-être une question par curiosité, c'est peut-être une question un petit peu hautaine ou fière de dire ouais, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a que nous, les juifs, qui sommes assez bons pour être sauvés, ou... Jésus répond: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. Pour moi, c'est un petit peu une réponse oui. Et fais en sorte que tu sois parmi ces gens. On a l'impression qu'il répond vraiment, mais en quelque sorte, il change la question. Il passe d'une question à une question philosophique, théologique. Est-ce que c'est vrai que... j'en sais rien, moi. C'est des questions. On peut avoir des débats, on peut discuter de choses, on peut dire, est-ce que vous pensez que, par exemple, ce dont on a discuté un petit peu avant, est-ce que la symbolique de la graine de moutarde, est-ce que les oiseaux, c'est mal, est-ce que le levain, c'est vraiment la symbolique du péché, aller chercher des petites choses, est-ce que c'est vrai que tous seront, il y aura que quelques personnes, et c'est quoi les critères? Et Jésus, il dit non, les discussions philosophiques, c'est pas le problème. Toi, est-ce que tu sais comment faire pour être sauvé? Est-ce que toi, tu vas être sauvé? Est-ce que toi, tu vas être dans le petit paquet? Et il dit, il y aura peut-être pas beaucoup de gens, mais fais en sorte que toi, tu sois dedans. Dans le monde, si vous témoignez aux gens, si vous partagez l'évangile aux gens, une question qui revient souvent, c'est oui, alors si, mais est-ce que comment les Indiens d'Amazonie peuvent entendre parler de Jésus, ou comment les gens qui n'ont jamais lu la Bible peuvent savoir? Et d'une certaine manière, c'est détourner la question, c'est dire j'ai pas envie, donc je vais trouver un truc pour dire que je vais discuter sur autre chose. Et la question que Jésus nous pose à chacun, c'est est-ce que toi, tu as la bonne relation avec moi? Est-ce que toi, tu es sauvé? Et le reste, je m'en occupe. Et par rapport à ces questions, les réponses à ces questions ne sauvent pas les gens. Savoir exactement combien de personnes, si on vous donnait le chiffre exact, là, la réponse, Jésus pourrait dire... Voilà le chiffre exact du nombre de gens qui rentreront dans le royaume de Dieu. Il pourrait le donner, là. Il peut le... Hop, je le marque au tableau. Voilà. Tu voulais savoir combien il y en a qui allaient être sauvés? Voilà. Est-ce que ça résout quoi que ce soit pour les personnes qui viennent lui poser la question? Non. Ça résout rien du tout. La question, c'est est-ce que je suis parmi ceux qui vont être sauvés? La porte étroite, c'est pas le fait d'avoir des bonnes actions ou des bonnes œuvres et que c'est difficile à faire et qu'il faut faire suffisamment d'œuvres, etc. La porte, c'est Jésus. Dans Jean 10, tournons-nous dans Jean 10, à partir du verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est Jésus la porte, c'est par Jésus qu'on vient au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'est pourquoi est-ce que c'est difficile d'entrer par cette porte étroite? Parce qu'il y a des obstacles. Parce qu'il y a Satan, il y a le monde, il y a notre chair, il y a un combat. Et paradoxalement, la porte étroite, le fait que ce soit une petite porte, paradoxalement, ça agrandit le royaume de Dieu de manière incroyable. Avant Jésus, c'était que les Juifs, il y avait cette difficulté, il fallait ce culte, cette manière de venir à Dieu. Et maintenant que Jésus est la porte, le royaume de Dieu est incroyablement plus grand, toute l'humanité peut venir. Ça se limite plus qu'aux Juifs et qu'aux Juifs qui font exactement toutes les règles comme il faut. Ça ouvre, c'est marrant et c'est quelque chose qu'il faut faire intentionnellement. Il vous dit, efforcez-vous, faites l'effort. C'est pas quelque chose qui se fait naturellement, c'est quelque chose qu'il faut faire. Certains n'y arriveront pas, c'est... On se dit que c'est un petit peu bizarre parce qu'on a l'impression que ça va à l'encontre de la volonté des gens. Mais on voit dans la parabole du semeur ou de la semence qu'il y a des graines qui sont semées. Il y a cette annonce de l'évangile et pas toutes les personnes reçoivent et pas toutes les personnes acceptent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient, qui, si on leur demande dans l'absolu, ils aimeraient aller au ciel. Mais après, de comprendre et d'accepter vraiment Jésus et de le vouloir comme Seigneur et de vouloir faire sa volonté, c'est plus difficile. Dans Matthieu 7, 21, on va le lire après, donc on peut s'y tourner, mais on le lira après. Mais ils disent, quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et c'est autre chose. On peut avoir la volonté de faire quelque chose. On peut avoir le souhait du résultat final et pas être prêt à faire ce qu'il faut pour y arriver. Les résolutions de fin d'année sont l'exemple typique. Le résultat final est génial, hein. J'aimerais être en mince, en forme, organisé, efficace. Et le travail qu'il faut faire pour y arriver, la discipline, les choix de tous les instants dans notre vie, de comment on utilise notre temps, de comment on fait les choses, ça c'est difficile. Et avec Jésus et cette porte étroite, c'est un petit peu cette idée que on aime bien le résultat final, mais on n'a pas envie de faire le nécessaire pour y arriver. Et Jésus nous dit, faites l'effort. Ici, alors si on reprend au verset 24, la ponctuation, enfin la séparation entre le verset 24 et 25 est un peu discutable. C'est presque comme s'il disait, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte. C'est un petit peu une fois que le moment est passé, ben on peut plus rentrer. Il viendra un moment où la porte est fermée, où l'opportunité de venir à Jésus est passée. Et il y en a qui vont crier à la porte et il va dire « je vous connais pas ». Lisons ensemble dans Matthieu 7, à partir du verset 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » On en a déjà parlé, c'est pas le royaume de Dieu et Jésus, c'est pas la croix autour du cou ou le poisson sur la voiture ou le fait d'avoir été baptisé quand on a été enfant ou d'habiter dans un pays qui se dit pays chrétien. C'est pas ça qui sauve. Et c'est intéressant la réponse au verset 26 dans notre texte, dans Luc 13, où il dit « Nous avons mangé et bu devant toi ». Et tu as enseigné dans nos rues. Et c'est un petit peu comme s'il disait, bon, ben, tu es passé là dans Aimé Martin, donc c'est bon. On t'a vu passer, je t'ai vu passer. Mais il dit, mais je vous connais pas. Il veut qu'on ait une relation avec lui, qu'on lui obéisse, qu'on écoute ce qu'il a à dire et qu'on obéisse. Et il finit avec cette note. Là, il choque, je pense, beaucoup les Juifs, où il leur dit, mais il y en a beaucoup d'entre vous, vous pensez avoir, parce que vous habitez dans le bon pays, que c'est bon. Et il y en a beaucoup d'entre vous, les pères spirituels que vous avez, c'était un petit peu comme s'ils portaient le maillot, quoi. Ils avaient le maillot, Abraham, Isaac et Jacob. Ils se disaient, c'est bon, je suis sauvé, tranquille, quoi, j'ai le maillot. Et Jésus dit non, tu vas les voir à travers la paroi, là-bas, en train de s'asseoir à table avec des gens venus de toute la planète, et vous y serez pas. Et il leur dit, le passage dans Matthieu 7, vous faites pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors qu'ils se croient en sécurité, les Juifs, qui sont devant Jésus, là. Tournons-nous dans Hébreux 4. À partir du verset 1. Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit, j'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Les œuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde, car il a dit quelque part à propos du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour, et de nouveau dans ce passage, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entrèrent pas à cause de leur incrédulité, Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant bien longtemps après, par la bouche de David, comme il a été dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » En effet, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juste des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est ça, c'est ce passage dans Hébreux 4. C'est le peuple juif qui n'a pas pris à cœur les paroles qu'ils avaient, les textes qu'ils avaient, les prophètes qui sont venus les avertir. Et dans Hébreux, comme ici dans Luc et dans d'autres passages, Jésus nous dit « Maintenant, venez maintenant, venez maintenant. Il y a le choix aujourd'hui, ne tardez pas, On ne sait pas ce qui va se passer. On en a parlé la semaine dernière. On ne sait pas quand on va quitter ce monde, quand on va être, quand ça va être la fin pour chacun d'entre nous. Et le peuple juif a refusé. Et Jésus, ce qu'il dit ici dans Luc, il ouvre. Il dit, il y en a qui vont venir de partout ailleurs, qui vont s'asseoir à la table, qui vous étaient préparés, où Abraham, Isaac et Jacob vous attendaient, vous n'êtes pas entrés, on est allé en chercher d'autres. Il y a une autre parabole qui parle de la fête des noces, où ceux qui sont invités viennent pas, et ils disent, allez en chercher ailleurs. Et pour nous, il nous dit, venez à moi. Verset 29, il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Les Juifs étaient choqués, j'imagine, parce qu'ils ne pensaient pas que les païens puissent être sauvés. Jésus, il dit ça, c'est intéressant aussi de se rappeler que Jésus dit ça là, et que quand on lit le livre des Actes, il va devoir utiliser des signes et des paroles et des choses pour même convaincre les apôtres de ça. Même eux ne l'avaient pas compris en lisant le texte. Si vous avez déjà regardé le livre des Actes, il y a ce passage bizarre où Pierre a une vision d'animaux qui descendent du ciel. Et c'est qu'après qu'il se rend compte que c'est Dieu qui dit le salut est pour tous les hommes, pas seulement les Juifs. On peut se tourner aussi dans Romains 9. Romains aussi s'attarde longuement sur toutes ces idées. C'est des thèmes qui reviennent, notamment pour Paul, pour qui c'était un crève-cœur. Il était malade de ça. Paul dit il aimerait tellement que le peuple juif puisse être sauvé, puisse venir, qu'il serait même prêt lui à renoncer à son salut. C'était quelque chose qui lui pesait sur le cœur, et ça revient dans ce qu'il écrit dans Romains 9. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur, car je souhaiterais moi-même être anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites et à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, parce qu'ils sont la descendance d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une descendance appelée de ton nom. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. Il continue. Je pourrais lire tout le 9, 10, 11. Verset 14 du chapitre 9. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Certes non, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras donc, qu'a-t-il encore à blâmer? Car qui résiste à sa volonté? Toi, plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Le vase modelé, dira-t-il au modeleur, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris. Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés par la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, c'est-à-dire à nous qu'il a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, comme il le dit dans Osée, « Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple, et celle qui n'était pas ma bien-aimée, je l'appellerai bien-aimée. Et là même où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sa parole sur la terre. Et comme Esaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé un germe, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorre. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui recherchait une loi qui donne la justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés à la pierre d'achoppement selon qu'il est écrit « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » Et celui qui croit en lui ne sera pas confus. Celui qui croit en Jésus ne sera pas confus. Il le redit plus loin dans le chapitre 10. C'est une lecture, en regardant ce texte avec Jésus qui parle, on pourrait lire tout Romain. c'est le commentaire de ces choses-là. Je vais pas le faire. Il y a trop à lire. Les premiers et les derniers, au verset 30. Et voici, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. C'est un peu cryptique comme parole, mais je crois que c'est simplement qu'il est en train de dire aux Juifs, il va avoir des surprises au royaume du ciel. Ceux qui pensaient être bien, ils vont peut-être pas y être, et ceux qui pensaient être les rejetés de la terre ou les plus pauvres de la terre, eux, ils y seront. Il y aura des surprises, il y aura des gens qu'on aura peut-être méprisés, qui seront à qui Dieu rendra honneur, parce qu'ils auront été des gens qui auront fait sa volonté. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos et d'obéir à Jésus. Lisons à partir du verset 31. À ce moment-là, quelques pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Les pharisiens l'interrompent. Et on a l'impression qu'ils veulent aider Jésus. On a vu plusieurs fois avant qu'ils cherchaient à le tuer. Donc c'est un peu bizarre. Il y a quelques commentateurs qui pensent que peut-être qu'il y avait des pharisiens qui étaient plus honnêtes. Il y en a d'autres qui pensent qu'éventuellement, l'objectif ici, c'était une ruse. C'était de dire, Hérode, son domaine, c'était plutôt la Galilée, et de dire, y a Hérode qui veut te tuer, il faudrait que tu ailles plutôt vers Jérusalem, où il y avait les Juifs qui l'attendaient pour le tuer, le Sanhédrin, et que là, ils pouvaient plus l'atteindre. Encore une fois, par rapport au texte, je trouve que ça fait plus sens, parce qu'il... Sa réponse est un petit peu « T'inquiète, je vais venir à Jérusalem, vous n'avez pas besoin de me tromper, je vais y aller quand j'ai envie d'y aller. On se verra à Jérusalem. » C'est un petit peu comme s'il voulait le tromper et il dit « Non, je vais pas paniquer, je vais pas y aller par votre tromperie, je vais y aller quand je le veux. » Et là, il répond, il leur dit quoi dire à Hérode, à partir du verset 32, il leur dit « Allez dire à ce renard, voici, je chasse les démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, ce sera pour moi l'achèvement. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Il répond sèchement, violemment à Hérode. Le renard, dans la pensée de l'époque, c'était un animal rusé, fourbe, qui était souvent symbole de destruction ou de problème, et qui était un symbole d'un homme ou d'un dirigeant plutôt faible. C'était pas un lion, quoi. Hein, c'était un renard. Il a pas assez de force pour faire les choses en face, donc il faut qu'il ruse, qu'il passe par les... Plus tard, on verra. Dans l'histoire des derniers quelques jours de Jésus, de sa passion, que quand il est mis face à Hérode, il veut même pas lui parler, il lui adresse même pas la parole, et on se dit que Hérode, il devait être vraiment dans un mauvais état pour que Jésus ne veuille plus lui adresser la parole. Il leur dit, j'ai encore quelques jours de boulot. Il fait une référence un petit peu à son, à sa mort et à sa résurrection avec cette idée du troisième jour. C'est pas trois jours chronologiques. Hein. Ici, c'est un petit peu ce que je vous disais avant, c'est-à-dire que ils essaient de lui faire peur pour qu'il se dépêche et pour qu'il puisse le zigouiller. Et Jésus, tranquillement, leur dit « Non, j'ai du travail encore, je vais faire ce que j'ai à faire, et après je vais aller à Jérusalem, mais c'est moi qui décide, c'est pas vous qui allez m'y pousser, c'est pas vous qui allez me faire violence pour que j'y vienne plus tôt, j'ai des choses à faire, je vais les faire, et après je viendrai. » L'autorité et la puissance de Jésus. On a l'impression presque qu'il cite un proverbe ou un dicton quand il dit « convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem ». C'est on connaît l'histoire quand on lit la Bible et on voit tous les prophètes et les personnes qui ont été tuées dans Jérusalem ou par le peuple juif, de voir les dans l'Ancien Testament, ou même de regarder d'autres paroles de Jésus, où notamment il y a un épisode connu avec la mort d'Étienne, la lapidation d'Étienne dans Actes, quand il leur dit vous qui tuez les prophètes, chacun, on vous en envoie, Dieu vous envoie des prophètes après prophètes, personne après personne, et ça pousse les pharisiens et les scribes à ce moment-là à le traîner dehors, à le lapider, tellement ça les énerve, tellement ça fait naître la haine dans leur cœur. Mais il sait qu'il, encore une fois, il a cette vision, il a ce regard sur Jérusalem et il sait qu'il doit y aller. Encore une fois, cette détermination, cette concentration et cette absence de panique ou de peur ou de quoi que ce soit dicté par les choses extérieures. Dans Jean 10, verset 18, Jésus dit, parlant de sa vie, « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » C'est lui qui décide. Sa mort, c'était pas un accident, c'était un choix. On le sait peut-être, mais il est bon de se le rappeler, c'était lui qui a dit « Je sais ce qui est nécessaire pour pouvoir, premièrement, accomplir la volonté de Dieu et deuxièmement, pour pouvoir sauver, c'est son plan de salut pour les hommes. » Et c'est lui qui décide, il s'est pas trompé, et on le voit ici encore, il dit « Non, j'ai des choses à faire, c'est pas encore le moment, mais quand j'ai envie, je viendrai à Jérusalem, vous inquiétez pas. » Et ça se passera. Il dit presque là, je vais mourir. Il convient pas qu'un prophète me périsse hors de Jérusalem. C'est une manière détournée de dire, je dois mourir à Jérusalem. Et ça le pousse à se lamenter sur les derniers deux versets là. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il veut le bien de Jérusalem, il veut la sauver, il aime Jérusalem, mais il leur laisse le choix, et eux ne veulent pas. La manière dont il parle, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? On a l'impression qu'il était venu plusieurs fois, qu'il avait eu plein d'épisodes à Jérusalem où il avait débattu, où il avait. Finalement, on ne connaît que tellement peu de la vie de Jésus par les évangiles. On connaît qu'une petite parenthèse, que la plupart des évangiles concentrent presque la moitié de leur texte sur les dernières quelques semaines de la vie de Jésus et de se dire, enfin, tout le. C'est pas une fois en passant, quoi. C'était quelqu'un qui a passé sa vie parmi ce peuple et qui a. On a l'impression ici qu'il dit j'ai, combien de fois? Combien de fois? Et il prononce une parole prophétique sur la chute de Jérusalem. Votre maison vous sera laissée. On sait qu'en l'an 70, les Romains viennent et rasent la ville, que ça commence une longue histoire de diaspora, d'absence de présence juive ou d'autorité juive à Jérusalem. Et il se lamente dessus. Il aurait tant aimé que ça ne se passe pas. Il y a cette image de il veut les rassembler comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. C'est une image tellement de bienveillance, presque une image de... souvent avec Dieu, on a l'impression, avec Jésus, on a l'impression que c'est qu'un amour paternel, masculin. Et là, on a presque l'idée d'un amour très maternel aussi. Il y a la plénitude de l'amour en Dieu, en Jésus. C'est les deux côtés, mais ça donne un peu cette image de vouloir les protéger, de tout. Et on sait par l'histoire que malheureusement, ça, leur choix les condamne en quelque sorte. Et ensuite, il parle aussi un petit peu prophétiquement de... Ici, à la fin, béni, que vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça peut être l'épisode quand il vient, quand il entre dans Jérusalem avant sa mort. Et il y a sans doute un peu une double signification aussi avec son retour, sa deuxième venue et le moment où le peuple juif va vraiment l'accepter comme le Messie. Et qu'à ce moment-là, il pourra sauver le peuple juif. Et il y a cette double chose, mais il y a cet amour et cette tristesse de Jésus pour ces gens qui ne sont pas entrés, qui n'ont pas écouté les paroles de prévention, les paroles pour dire attention, ça vient. Je vous préviens. Pour nous, ne soyons pas de ceux que Jésus lamentera, sur lesquels Jésus se lamentera, pardon. Il y a des commentateurs qui disaient qu'une partie de la condition de l'enfer, ce sera le fait de se rappeler les opportunités qu'on aura manquées de répondre positivement à Jésus pour ceux qui en seront. Entrons dans son repos, obéissons à Dieu. Soyons de ceux que Jésus connaît. Soyons ceux que, quand on l'appelle, quand on dit Jésus, Jésus, il se retourne et il dit, ah oui, Tonio, ouais. Qu'on ne soit pas de ceux qui disent, je ne vous connais pas, vous ne faites pas ma volonté, je ne sais pas qui vous êtes. Soyons ceux qui faisons sa volonté. Et faire sa volonté, c'est simple, mais vous le savez, répondons par la positive, efforçons-nous d'entrer, faisons le travail nécessaire, obéissons à Dieu, croyons en Jésus pour notre salut. Prions ensemble. Jésus, merci pour ce matin, merci pour ta vie sur terre, pour tes paroles, pour celles qui nous sont parvenues, Seigneur, et pour cet amour que tu as pour nous, pour le peuple juif, pour tous les hommes. Tu veux que tous les hommes soient sauvés, Seigneur. Tu attends, tu appelles, tu patientes. Aide-nous à t'obéir, aide-nous à être de ceux que tu connais. Aide-nous à être ceux qui quand nous t'appelons, tu nous connais personnellement, que Seigneur, protège-nous, que nous ne soyons pas de ceux que tu ne connais pas. Seigneur, aide-nous à pas nous reposer sur le fait que nous avons une Bible quelque part dans la bibliothèque ou que nous venons à l'église de temps en temps ou que nous avons une croix. Seigneur, aide-nous à vraiment répondre à toi et à croire en toi, Seigneur, et à obéir à ta parole, à ce que tu nous demandes de faire. Seigneur, sois glorifié dans nos vies, sois élevé ici. Merci pour ce matin. En ton nom, nous prions. Amen.